Le journal vous est présenté par Boris Loumagne.
Bonjour à tous. Après un an de mobilisation en dents de scie, les Gilets jaunes vont tenter aujourd'hui de trouver un second souffle qui espère fédérer les mécontentements d'une partie de la société derrière leurs couleurs. Nous serons à Paris, au cœur de la mobilisation dès le début de ce journal. Les centres-villes vont mieux après avoir été en partie vidés de leur commerce. Une étude de l'INSEE met en exergue une tendance à la revitalisation des cœurs de nos villes. Nous irons également à Gaza dans ce journal. Des frappes israéliennes ont visé le Hamas ce matin. Le mouvement islamiste était jusque-là resté à l'écart des derniers affrontements. La trêve négociée ces derniers jours vacille. Et puis voilà un pays qui a besoin de sécurité au Sri Lanka. Les électeurs choisissent leur nouveau président aujourd'hui. Les derniers attentats qui ont frappé le pays en avril devraient peser lourd dans le choix des électeurs. Tractage, manifestation, rassemblement sur les ronds-points, plus de 270 actions prévues tout le week-end pour le retour des Gilets jaunes. Dans un contexte de convergence des luttes, hôpitaux, étudiants, SNCF, le mouvement veut fédérer les colères. Mais pas sûr que l'on parvienne auprès de 300 000 personnes réunies dans les rues il y a un an pour la première manifestation des Gilets jaunes. Alors pour constater l'ampleur de la mobilisation aujourd'hui, nous rejoignons Rémi Brancato. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Vous êtes dans l'un des cortèges parisiens qui est parti de la porte de Champéret pour rejoindre la place de Clichy. Quelle est l'ambiance autour de vous ?
Oui, c'est une manifestation qui avance dans le calme, Boris, pour le moment. Environ un millier de personnes qui a quitté la porte de Champéret ce matin dans le nord-ouest de Paris. C'est l'une des manifestations déclarées qui doit passer ensuite place de la République, se rendre jusqu'à gare d'Austerlitz. Ce matin, quelques dizaines de ces manifestants ont brièvement bloqué la circulation. Ils sont entrés sur le périphérique parisien, action coup de poing, rapidement délogés ensuite par les forces de l'ordre. Et puis on a assisté à quelques échauffourées de légères dégradations de mobilier public et des tirs de gaz lacrymogène des forces de l'ordre assez nourris. Mais pour les manifestants présents aujourd'hui, pas question d'abandonner. On a vu sur les gilets jaunes des inscriptions « Joyeux anniversaire », un an après donc le début de cette mobilisation inédite. Beaucoup qui réclamaient plus de justice fiscale, sociale, estiment n'avoir vu aucun changement depuis un an. Alors certains reviennent dans la capitale, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis des mois, disent-ils. Les appels au rassemblement à Paris sont nombreux aujourd'hui. Pour l'instant, les Champs-Élysées interdits sont restés inaccessibles, avec de nombreuses stations de métro fermées dans le secteur et des contrôles de police aux abords. Quelques échauffourées sont également à signaler au niveau de la place d'Italie, dans le sud-est de Paris.
Rémi Brancato et Arthur Gerbeau pour les moyens techniques. Merci à vous deux. J'ajoute qu'une quarantaine de manifestants ont déjà été interpellés ce matin à Paris. Et voilà à présent une étude qui devrait intéresser certains gilets jaunes, ceux qui se sentent les perdants de la mondialisation, les perdants de la société de consommation également, les petits commerçants, les artisans, ceux qui subissent la concurrence des grandes galeries marchandes situées en périphérie des centres urbains. Eh bien, d'après cette étude de l'INSEE, ce sont ces grandes surfaces qui perdent en ce moment du terrain au profit des centres-villes. Ces cœurs urbains, longtemps désertés, retrouvent du dynamisme. Écoutez Philippe Schmitt, le secrétaire général de l'Assemblée des communautés de France, qui fédère 1000 intercommunalités.
On est en train d'inverser la tendance. À l'échelle nationale, il y a une véritable prise de conscience du sort des centres-villes, de beaucoup des villes moyennes petites, et n'excluons pas non plus les métropoles qui peuvent aussi avoir des difficultés. Également, une prise de conscience plutôt, je dirais, à l'échelle locale, avec des maires et leurs communautés engagées autour de ces problématiques de centre-ville. Chacun peut voir au pied de chez soi, dans son centre-ville, des élus qui ont ouvert ce qu'on appelle des boutiques à l'essai ou des commerces éphémères. On voit des commerces dans lesquels, en fait, on a des rotations, même tous les 6 mois. On a le chocolatier pendant la période de Noël et puis après, on a plutôt le glacier pendant l'été. Vous voyez ? Donc, il y a une foultitude d'initiatives. Et la périphérie, eh bien, elle n'est pas à l'abri de la problématique de vacances. Et la preuve en est, c'est que même des centres commerciaux tout à fait récents naissent avec des cellules vides à l'intérieur de leur propre centre. Donc, on a un risque très clair qu'une partie de l'espace commercial périphérique tombe assez vite en désuétude. La grande question va être, en fait, le devenir de ces zones. Comment, sur ces espaces commerciaux, nous allons pouvoir reconstruire de la ville ?
Philippe Schmitt, le secrétaire général de l'Assemblée des communautés de France. À l'étranger, le fragile cessez-le-feu entre Israël et la bande de Gaza tremble de nouveau sur ses bases. Après une escalade militaire meurtrière qui a fait 34 morts palestiniens, dont 16 civils cette semaine, les affrontements ont repris, et ce en dépit d'une trêve conclue il y a deux jours entre le djihad islamique et Israël. La nuit dernière, l'État hébreu a bombardé des positions du Hamas à la suite de tirs de roquettes en provenance de l'enclave. Le mouvement islamiste Hamas était pourtant resté jusque-là à l'écart des violences. Dans la bande de Gaza, Marine Vlaovic.
Malgré le cessez-le-feu en vigueur, des roquettes palestiniennes ont été tirées la nuit dernière sur la ville israélienne de Beersheva. Des tirs non revendiqués, mais seules deux organisations ont la capacité d'envoyer des roquettes de cette portée, le djihad islamique et le Hamas. Ce dernier a donc été la cible de raids israéliens ce matin. Des positions militaires ont été touchées. L'État hébreu qui pointe le Hamas du doigt rompt ainsi une alliance de circonstances inédites établie cette semaine avec son meilleur ennemi. Bien décidé à maintenir le calme pour obtenir un allègement du blocus, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza s'est tenu à l'écart de l'escalade militaire en réussissant jusqu'ici à être épargné au risque de susciter l'incompréhension dans l'enclave palestinienne et d'écorner son image. La balle est désormais dans le camp du Hamas qui a condamné ce matin une agression israélienne. En cas de réplique, le cessez-le-feu arraché par l'Égypte et l'ONU sera alors définitivement mort et enterré. Mais la vie reprend son cours dans une bande de Gaza qui a vécu en quasi léthargie une bonne partie de la semaine. Les supermarchés et les boutiques font le plein. Objectif, se réapprovisionner en cas de nouvel épisode de violence. Les écoles ont quant à elles rouvert leurs portes ce matin.
Les explications de Marine Vlaovic. En Iran, un civil est mort hier soir lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'essence. Il y a également des blessés. Le gouvernement a annoncé une hausse de 50% des prix du carburant, et ce alors que le pays est confronté à une profonde crise économique. L'Iran, notamment asphyxié par les sanctions américaines, les bénéfices de la hausse du prix de l'essence doivent être redistribués aux Iraniens les plus précaires. Après les violents affrontements de la semaine, retour à un calme relatif à Hong Kong. Aujourd'hui, les manifestants nettoient les rues, les habitants dégagent les barricades dressées. Les militants pro-démocratie ont paralysé l'économie de l'île cette semaine, multipliant les blocages. Le chaos s'est également propagé à plusieurs campus universitaires. Élection présidentielle aujourd'hui au Sri Lanka, un pays encore marqué par les attentats du dimanche de Pâques, 258 morts en avril dernier. Un pays qui a besoin de sécurité, de quoi peut-être faire émerger le profil d'un homme à la poigne de fer. Et justement, parmi les 35 candidats en liste, une personnalité se dégage, celle de Gotabaya Rajapakse. Il était secrétaire d'État à la Défense sous la présidence de son frère et il a contribué à la victoire contre la rébellion des Tigres Tamouls en 2009. Gotabaya Rajapakse est donc plébiscité par une partie de la population et notamment par les catholiques. Au Sri Lanka, Sébastien Farsi.
Quelques 200 personnes sont rassemblées sur la place centrale de Nathandia, à l'ouest du Sri Lanka, pour écouter Gotabaya Rajapakse. Parmi ces personnes, Aesh Shion, une catholique de 46 ans, est conquise quand l'ancien secrétaire d'État à la Défense explique comment il va sécuriser le pays.
Le jour des attentats contre les églises, mon mari a été tellement choqué par les images à la télévision qu'il est mort d'une crise cardiaque. Nous sommes désespérés. Nous avons besoin d'un homme intelligent qui peut assurer notre sécurité. Cet homme, c'est Gotabaya.
Au centre de Colombo, le révérend Jude Raj Fernando est lui bien plus prudent. Il est le recteur de l'église Saint-Antoine où a explosé l'une des 6 bombes le 21 avril dernier, tuant 54 personnes. Et il demande à ce que le futur président fasse toute la lumière sur cette terrible attaque.
Avant les élections, tous les candidats font des promesses, mais après ils trouveront des excuses. La population a besoin de justice. Nous avons réparé l'église, mais comment rendre un père ou un enfant disparu? C'est impossible. C'est pour cela que nous avons besoin de justice.
Près de 300 personnes ont été arrêtées, mais beaucoup en veulent encore au président sortant qui aurait été au courant de l'imminence des attaques, mais n'a rien fait pour les empêcher.
Le reportage au Sri Lanka de Sébastien Farsi. Venise, placée en alerte rouge, des vents violents et une nouvelle montée des eaux sont attendus dans la journée. Et ce au lendemain d'un pic de marée haute qui a contraint les autorités à décréter l'état d'urgence dans la cité des Doges. La marée haute a atteint hier plus d'1,50 m. Mardi soir, Venise avait connu sa pire marée haute depuis 53 ans. Le ministre italien de la Culture estime que les travaux de réparation seront considérables Plus de 50 églises ont été endommagées. 12h40, la suite du journal.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et aujourd'hui, dans la bulle économique, Marie Viennot s'intéresse à l'impact macroéconomique du mouvement des Gilets jaunes. Mais est-ce chiffrable, Marie ?
On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous on est là !
Des centaines de ronds-points animés, des dizaines de chansons, 400 peines de prison ferme, 4000 blessés, des heures et des heures de vrais débats, de grands débats et de paroles présidentielles. Le bilan chiffré du mouvement des Gilets jaunes n'est pas seulement économique et ses répercussions bien plus larges. Mais souvenez-vous, quand le mouvement a commencé et s'est durci, ce qu'en disait le ministre des Finances, Bruno Le Maire, le 10 décembre. Les Gilets jaunes, une catastrophe pour l'économie.
C'est la réalité des chiffres. Parce que je pense que les événements actuels devrait nous faire perdre 0,1 point de croissance de notre richesse nationale au dernier trimestre.
Trois mois plus tard, Bruno Le Maire doublait ce chiffre, 0,2 point de croissance en moins. Aujourd'hui, Bercy redit 0,1. Alors d'où vient ce chiffre ? De l'INSEE. Pour faire cette estimation, m'écrit l'INSEE, on regarde notamment les séries de consommation à un niveau fin, c'est-à-dire secteur par secteur, et l'on tente d'isoler les variations qui vont au-delà de la variation habituelle de ces séries mensuelles. Mais ces calculs sont très incertains, reconnaît l'Institut national des statistiques, car il est impossible de construire une situation contrefactuelle. Dit plus simplement, il est impossible de savoir ce qu'aurait été le niveau de croissance sans les Gilets jaunes, puisqu'il y a eu les Gilets jaunes. C'est comme quand on essaie de dire quel a été l'effet de la création de la zone euro sur nos économies. On ne sait pas, car on ne sait pas comment elles auraient évolué sans l'euro. Même chose pour les Gilets jaunes. S'ils ne s'étaient mobilisés que dans une région, on aurait pu comparer l'évolution du PIB dans cette région et dans les régions sans Gilets jaunes. Mais là, non, on ne peut pas. On n'a pas de point de comparaison. Ce manque de contrefactuel n'empêche pas de faire des estimations. Sinon, on ne pourrait étudier l'impact d'aucune politique publique. Mais il faut toujours les considérer comme des estimations avec toute l'incertitude qui s'y attache, insiste l'INSEE. Une estimation n'est pas un chiffre. Parler de réalité des chiffres, comme l'a fait le ministre pour la croissance, n'avait donc pas de sens, à part un sens politique. Ces réserves en tête, intéressons-nous à l'année 2019. Là, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques qui a estimé l'effet des Gilets jaunes, ou plutôt l'effet des mesures annoncées par le président en décembre.
Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Les retraités constituent...
Parmi ces mesures, certaines ont juste été accélérées. Mais en tout, il y en a quand même pour 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat redistribués aux ménages en 2019. 10 milliards qui ont eu pour effet d'augmenter la croissance de 0,3 point en 2019, selon l'OFCE. Au final, donc, l'effet des Gilets jaunes sur la croissance est positif. La crise annoncée dans le tourisme et le commerce n'a pas eu lieu, au niveau macroéconomique en tout cas, car les moyennes masquent des situations individuelles extrêmes. Je vous renvoie à la page de la bulle économique pour plus de détails sur les effets microéconomiques de cette mobilisation inédite. Le problème avec les mesures d'urgence Gilets jaunes, c'est qu'elles ont réduit les recettes de la sécurité sociale de presque 3 milliards d'euros et n'ont pas été compensées par l'État. Ce qu'on a donné d'une main, on l'a en partie repris et pas à ceux qui payaient l'ISF, comme le voulaient les Gilets jaunes, mais à tous les Français. En première ligne, pour l'augmentation de ses moyens, le personnel hospitalier manifestait cette semaine. Le président a promis un plan d'urgence pour l'hôpital. On lui serait gré d'évaluer alors le coût à long terme de la dégradation des conditions d'accueil et de travail de l'hôpital public. Même si cette évaluation est difficile à faire, on ne serait pas à une estimation près et celle-ci ne serait pas de trop.
C'était la bulle écho de Marie Viennot. Merci Marie. Le temps pour cet après-midi, des averses fréquentes du Pays Basque au Limousin, des orages à attendre sur le littoral aquitain, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en vigilance orange par Météo France. Et ce à cause des risques de fortes pluies et d'inondations. Sur le quart nord-ouest, les pluies s'estompent, mais le ciel reste encombré, parfois ponctué d'ondées, principalement près de la Manche. Sur l'est du pays, entre le nord-est, la vallée du Rhône et le pourtour du golfe du Lion, la journée est plus calme. Le ciel variable, souvent dégagé sur le Languedoc. Les températures maximales, toujours en dessous des valeurs de saison, vont de 5 à 10 degrés d'est en ouest et de 11 à 15 degrés près de la Méditerranée.